Bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. On va aujourd'hui ouvrir des lettres cachetées, ou peut-être même une enveloppe scellée qui contient des pensées couchées sur le papier et qui n'ont pas vocation à faire œuvre. Des idées désordonnées, des mots jetés sur la page, parfois de manière impulsive, parfois au contraire de manière posée et réfléchie. Mais surtout, des mots qui s'adressent à quelqu'un et qui ne visent pas à être publiés. Alors qu'est-ce que ces lettres nous disent de celui qui l'a écrit, qui les a écrites, surtout quand celui-ci est un philosophe? Allez, on commence avec Laurès Alexandria par nous asseoir et écrire une lettre. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Bonjour Élise Marou.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous enseignez la philosophie contemporaine et l'histoire de la philosophie à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de Wittgenstein, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. On vous doit notamment une édition, un commentaire sur De la certitude, le dernier texte de Wittgenstein paru aux éditions Ellipse. Et nous allons parler aujourd'hui de la correspondance de Wittgenstein, qui est une correspondance massive. J'ai l'ouvrage devant moi, c'est vraiment un gros volume, qui est un trésor quand on connaît Wittgenstein, parce qu'on découvre peut-être un autre Wittgenstein. Comment est-ce que ce volume qui est paru l'an dernier, en 2015, et la traductrice Elisabeth Rigal était venue en parler à ce micro, comment est-ce qu'il a changé votre manière de travailler sur Wittgenstein? Est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée? Est-ce que ce sont des anecdotes privées qui finalement n'ont aucun lien avec sa pensée?
Alors, je voudrais d'abord saluer le travail de traduction et d'édition d'Elisabeth Rigal, puisque cette correspondance philosophique qui est parue chez Gallimard en 2015 n'a pas son équivalent ni en anglais ni en allemand. On a en fait compilé toute la correspondance de Wittgenstein, à l'exception des lettres à la famille.
Alors qu'il écrivait en anglais, c'est ça le paradoxe.
En anglais, certaines lettres sont évidemment en allemand, dans sa langue maternelle. Et le problème posé d'emblée par le titre choisi, correspondance philosophique, et de savoir dans quelle mesure cette correspondance, ces lettres, le sont, puisque contrairement à Épicure et contrairement à l'échange qui a lié, on l'a entendu hier, Elisabeth et Descartes, cette correspondance, vous l'avez rappelé Adèle, n'a pas vocation à être publiée pour Wittgenstein, et elle n'avait pas non plus vocation à être philosophique, puisqu'il s'agit en effet de s'adresser, et de s'adresser à des interlocuteurs comme autant d'amis. Alors je dois dire que l'erreur, ça serait de lire cette correspondance simplement dans une perspective justement de complément ou d'éclairage sur la vie de Wittgenstein. Je pense que ça serait réducteur. Personnellement, moi, ce que la lecture accélérée, la relecture m'a appris, c'est que Wittgenstein y redéfinit en profondeur ce que c'est qu'un ami. Et donc, on voit se redéployer au fil des pages, dans quelle mesure pour lui, son travail philosophique, son combat avec les problèmes philosophiques, ne s'adresse pas à un cercle académique, au microcosme des professeurs de Cambridge ou aux lecteurs de la revue Mind, mais avant tout à des amis, à ce petit cercle dont il redéfinit au fil des pages justement les exigences et les conditions, ce qui explique aussi tous les revirements qu'on peut lire, y compris à l'intérieur de chacune des correspondances.
Vous parlez des amis, que ce qui compte dans cette correspondance c'est sans doute l'amitié, et pourtant Wittgenstein est connu, même quand on ne le connaît pas, pour sa solitude, pour ses rapports extrêmement houleux avec les gens avec lesquels il s'est lié d'amitié, que ce soit ses professeurs, Russell, Moore ou même d'autres. Et dans les lettres, on le voit sans cesse déclarer qu'il se fâche avec un tel ou un autre, et puis finalement continuer à écrire. Il y a comme ce lien finalement nécessaire de l'amitié dont il n'arrive pas à se défaire, mais qui lui pèse aussi. C'est vraiment la problématique de cette correspondance.
Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de lecture. D'une part, ce qu'on apprend à lire ces lettres, c'est que pour Wittgenstein, une relation philosophique, si elle est philosophique au sens strict ou au sens propre, si elle n'est pas une simple, si elle n'est pas un simple échange d'affaires. Il parle d'une différence entre une véritable lettre et une lettre d'affaires dans la correspondance, quand il s'adresse notamment à Keynes. La différence, donc, c'est que toute lettre philosophique s'adresse à une personne et à cette personne particulière qui est l'ami, et à l'inverse, tout ami, qu'il soit architecte, qu'il soit économiste, puisque en fait, si on fait rapidement le passage en revue des amis, il y a les maîtres, Frege, Russell, il y a ensuite Moore dans une moindre mesure, puisqu'il n'a pas été l'inspirateur du Tractatus à proprement parler, mais il y a ensuite Paul Engelman, qui était un élève de Lohse et avec lequel il a construit la maison pour sa sœur dans la Kuhnmann-Gasse à Vienne. Il y a deux économistes, Keynes et Sraffa, mais qui s'intéressaient évidemment à la production, à l'œuvre philosophique de Wittgenstein, avec lesquels il a eu des discussions extrêmement vives, et ses étudiants. Donc on voit, on peut lire, toutes ces ma suggestion en tout cas, on peut lire toute cette correspondance au fil conducteur ou au prisme de la redéfinition vraiment de l'intrication, de la réversibilité entre relations philosophiques et relations amicales. Puisque les exigences que Wittgenstein place dans la relation à soi, qui définit le travail philosophique, puisqu'il dit dans les remarques mêlées, il a pu écrire que la philosophie est un travail sur soi-même, il dit « philosopher, c'est travailler à une conception propre, à la façon dont on voit les choses et à ce qu'on attend d'elles », on pourrait dire, en faisant varier donc cette remarque, que ce que la correspondance nous apprend, c'est que ce travail sur soi n'est en rien solitaire, n'est en rien philosophique, mais qu'il inclut cette dimension d'adresse, sous peine de ne plus être, à proprement parler, quoi que ce soit de conceptuel et d'éthique, dans la mesure où ces deux dimensions sont toujours étroitement mêlées.
Alors, il faut quand même dire deux mots de la vie de Wittgenstein, puisque sa correspondance suit forcément un parcours biographique pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est né en 1889 à Vienne, il meurt en 1951 à Cambridge. Pendant ces années de vie, il va faire des allers-retours entre la philosophie et d'autres activités, et sans jamais vraiment parvenir à décider, sans jamais vraiment rompre avec la philosophie. Ce qui l'a vraiment marqué, ce sont les années notamment à Cambridge, et puis les moments où il va s'isoler au bord d'un fjord pour essayer d'écrire sans forcément y parvenir. C'est quand même le philosophe qui a légué à la postérité une réflexion sur la logique et sur un certain rapport formel à la philosophie qui n'a pas d'équivalent. Il faut mesurer l'apport de Wittgenstein à ses réflexions sur la logique et même sur le langage, hein, pour comprendre l'intérêt de cette correspondance, Élise Marot.
Alors c'est peut-être à ce titre que la correspondance qui ouvre le recueil, la correspondance avec Bertrand Russell, est en effet paradigmatique.
Son
donc peut-être si on rappelle quelques éléments biographiques, en fait, Wittgenstein a une formation d'ingénieur et d'ingénieur en aéronautique, et c'est par ce biais qu'il s'est intéressé de façon extrêmement subite à la question des fondements des mathématiques, qu'il est allé voir Frege à Iéna, et Frege l'a renvoyé, lui a dit d'aller toquer à la porte de Bertrand Russell, qu'il a en effet vu débarquer à Cambridge, sans d'ailleurs avoir été prévenu. Et c'est à partir de cet automne à Cambridge que va s'engager une discussion philosophique extrêmement vive entre les deux philosophes. Raymond, qui est l'un des deux biographes de Wittgenstein, présente d'abord Wittgenstein comme le protégé de Russell, avant de devenir son maître. Donc, pour reprendre les termes de Russell, Wittgenstein, quoi qu'il advienne, dit-il, a été un grand événement dans ma vie, dans sa vie. Et de 1911 à 1900, à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, la discussion qui lie les deux interlocuteurs mêle indistinctement et toujours des échanges de logique qui sont extrêmement techniques, des injonctions éthiques qui passent toujours par le biais d'envois de poèmes ou d'essais littéraires, d'œuvres littéraires à Russell et réciproquement, et finalement de réflexions plus générales sur l'étrangeté et l'intensité de leur relation.
Écoutez, on a le témoignage de Russell lui-même dans les années 60 qui parle de sa rencontre avec Wittgenstein. C'est très émouvant, écoutez.
He was queer and his notions seemed to me odd. So that for a whole term, I could not make up my mind whether he was a man of genius or merely an eccentric.
Il était bizarre, et ses concepts me paraissaient étranges. si bien que pendant toute l'année scolaire, je n'ai pas pu me décider. Est-ce qu'il était un homme de génie ou simplement un excentrique ? À la fin de sa première année à Cambridge, il m'a dit « S'il vous plaît, dites-moi si je suis ou non complètement idiot. Si je suis complètement idiot, je deviendrai pilote. Sinon, je deviendrai philosophe. » Je lui ai dit de m'écrire quelque chose pendant les vacances sur un sujet philosophique, et alors je pourrais lui répondre. Au début de l'année suivante, il m'a apporté le résultat de cette suggestion. Après avoir lu une seule phrase, je lui ai dit non, vous ne devez pas devenir pilote. Et il ne l'a pas fait.
Cher Russell, je dois te redire que nos dissensions n'ont pas seulement des causes extérieures, nervosité, surmenage, etc., mais aussi des racines très profondes, du moins de mon côté. Il se peut que tu aies raison de dire que nous ne sommes peut-être pas si différents. Il n'en reste pas moins que nos idéaux diffèrent du tout au tout. C'est pour cela que nous n'avons jamais pu et nous ne pouvons toujours pas discuter de quoi que ce soit mettant en jeu nos jugements de valeur, sans recourir à la dissimulation ou nous quereller. Il y a longtemps que j'en suis conscient, ce qui a été terrible pour moi, car cela me montrait que notre relation s'enlisait dans un bourbier. Nous avons tous les deux nos faiblesses, surtout moi, dont la vie est remplie de pensées et d'actions détestables et dérisoires. Mais pour qu'une relation ne se dégrade pas, il faut que les faiblesses de chacun ne se conjuguent pas. Deux hommes ne doivent entretenir une relation que là où ils sont purs, c'est-à-dire où ils peuvent être totalement ouverts l'un à l'autre, sans se blesser mutuellement. Or, nous n'en sommes capables que lorsque nous nous restreignons à la communication de faits pouvant être établis objectivement, et peut-être aussi lorsque nous nous exprimons les sentiments amicaux que nous avons l'un pour l'autre. Peut-être, diras-tu, cela durant depuis déjà un bon bout de temps, pourquoi ne pas continuer ainsi? Mais j'en ai par-dessus la tête de ces compromis sordides. Jusqu'ici, mon existence a été une grande saloperie, mais faut-il qu'elle continue à l'être? Je te propose ceci. Faisons-nous part de nos travaux respectifs, de nos découvertes, etc. Mais abstenons-nous de tout jugement de valeur sur l'autre, sur quelque sujet que ce soit. Je n'ai pas besoin de t'assurer de l'affection profonde que je te porte. Mais cette affection serait menacée si nous continuions à entretenir une relation fondée sur la dissimulation, et donc honteuse pour l'un comme pour l'autre. Toujours tiens, Ludwig Wittgenstein.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de la correspondance philosophique de Wittgenstein, aujourd'hui en compagnie de la philosophe Élise Marou. Nous venons d'entendre la lettre que Wittgenstein a adressée à son professeur Russell le 3 mars 1914, interprétée par le comédien Yvan Morane. Et cette lettre, on n'a entendu qu'un extrait, hein, Élise Marou, elle est plus longue, on vous épargne le début où il dit qu'il lui pardonne d'écrire une lettre si longue, mais qu'il faut vraiment qu'il ne se parle plus, puis il explique pourquoi il y revient. Il met beaucoup de temps finalement pour dire une chose qui frappe, qui est très très étonnante quand on entend cette lettre, c'est l'exigence morale dont il témoigne à l'égard de lui-même, mais aussi dont il revêt toute forme de relation à autrui. Il faut une forme d'exigence de pureté, voire de transparence, pour qu'une relation puisse avoir lieu. Or, par définition, entre deux êtres humains, cette pureté et cette transparence ne peuvent pas être de mise. D'où le caractère problématique de toute relation entre Wittgenstein et qui que ce soit, Élise Marou.
Oui, alors la lettre montre très bien l'échange, en fait, puisqu'on a les trois lettres qui se suivent de Wittgenstein à Russell, qui reviennent justement sur cette querelle, montre bien dans quelle mesure Wittgenstein pousse dans ses retranchements, pousse à l'extrême la définition même, l'expérience même de l'expérience amicale. Puisque, en effet, il exige beaucoup. La relation, à l'image des discussions de vive voix de Wittgenstein et de Russell, est toujours un combat. Il y a une dimension agonistique très importante dans l'échange. Elle est très souvent aussi, peut-être moins avec Russell qu'avec d'autres interlocuteurs comme Ramsey, mais elle est aussi érotisée. Donc on retrouve une veine platonicienne de l'échange entendu comme dialogue. Et tout se passe comme si finalement la lettre était une forme de relais, de médiation entre deux discussions vives, deux discussions philosophiques qui permettraient justement à l'un et à l'autre des interlocuteurs de s'ouvrir, comme il le dit ici, en toute pureté. Alors, pour revenir sur l'exigence morale, il faut aussi rappeler, et c'est peut-être pas évident si on a juste l'extrait de cette lettre en tête, que le différent, même si un tout petit peu de mystère ou d'obscurité encore entoure sa naissance, son déclenchement, le différent vient, et Wittgenstein le dit explicitement, d'une divergence quant à la manière de comprendre la dissimilitude, la différence qui sépare une œuvre philosophique d'une œuvre scientifique. Et Wittgenstein a lâché ces mots juste avant que Russell parte aux États-Unis faire une série de conférences qui vont devenir son livre sur notre connaissance du monde extérieur. Et il dit ces mots, il lui dit « Il serait précieux pour ton auditoire qu'au lieu que tu communiques des résultats, tu lui permettes de penser. » Donc que tu n'y livres pas des résultats tout faits, sous-entendus comme d'ordinaire, mais que, justement, tu leur permettes, justement, tu leur apprennes à reconnaître la valeur de la pensée.
Donc là, il l'attaque vraiment sur sa manière d'enseigner, sa manière de penser même.
Exactement, et je pense que c'est exactement ce qu'il entend par la divergence, une divergence profonde ou une incommensurabilité en termes de valeur. Ce qu'il veut dire, c'est que, pour lui, Wittgenstein, penser de manière philosophique, ce combat qu'il mène et qu'il a mené jusqu'à présent avec Russell pour résoudre les problèmes de la philosophie qui ont leur racine dans la logique pour lui. Donc la racine de ces combats tient justement à la mise en œuvre, la mise en application d'une activité, pour reprendre les termes du Tractatus, qui est différente par nature d'une investigation, d'une exploration, d'une enquête scientifique. Et c'est précisément, à mon avis, la profondeur du différent qu'il ressaisit ici. Nous faisons en tant que philosophe, pour Wittgenstein, autre chose que ce que font les mathématiciens ou les physiciens. Et Russell commet l'erreur irrémédiable, irréversible, de vouloir calquer la méthode, le travail du philosophe sur celle, justement, des sciences, pour donner une légitimité à la philosophie qu'il, précisément, lui fait perdre. Ce qu'elle a de singulier et ce qu'elle a de propre.
Ce qu'il y a de plus fou, c'est que Russell va reconnaître que finalement Wittgenstein a sans doute raison. On a entendu son témoignage juste avant d'entendre le texte, hein, où Russell racontait sa rencontre avec Wittgenstein, qui au départ disait qu'il hésitait entre devenir en gros pilote ou ingénieur aéronautique ou philosophe, et que Russell a vite compris qu'il fallait qu'il soit philosophe. Suite à cet échange, ils vont continuer évidemment à s'écrire et à se parler, et Russell va jusqu'à reconnaître que finalement c'est à Wittgenstein de continuer le travail que lui a commencé, parce que Wittgenstein réussit à résoudre une impasse à laquelle Russell était confronté depuis longtemps. C'est là où en fait le génie de Wittgenstein apparaît aussi dans ses lettres, même si c'est de caractère insupportable, parce qu'il paraît aussi très orgueilleux, mais il a raison en fait.
Alors, je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort, mais en tout cas, la correspondance continue jusqu'en 1935, mais quelque chose s'est brisé après la dernière rencontre des deux hommes à La Haye. Juste après que Wittgenstein a été fait prisonnier en Italie, à Monte Cassino. Et c'est les dernières discussions vives durant quelques jours qui ont de nouveau réuni les deux hommes. Et après cette date, l'un et l'autre n'échangeront plus que précisément des jugements de valeur impitoyables. Le premier, donc Russell, à l'égard de Wittgenstein, en estimant qu'il trivialise la philosophie et qu'il y a vraiment une forme de chute ou de régression des exigences du Tractatus.
Parce qu'il a changé, ça faut quand même le dire. Il y a deux Wittgenstein en fait. Il y a celui du Tractatus qu'il a rédigé sur le front, hein, pendant la Première mondiale, et puis il y a un deuxième Wittgenstein qui change, là pour le coup, sa méthode philosophique.
Oui, alors le changement, on peut en discuter de manière séparée, parce qu'il a lui-même été extrêmement long, il y a des points de continuité très nets, mais en tout cas, le jugement de valeur que Russell porte sur cette évolution est irréductiblement et intégralement négatif. Wittgenstein a arrêté de faire de la philosophie. Pour lui, il la vide de sens. Alors que pour Wittgenstein, Russell est maintenant atteint d'un ce qu'il appelle problème Verlust, la perte du sens des problèmes. Et il écrira même à Moore qu'il est très soucieux pour Moore précisément, parce qu'il sent que Moore est au bord de la falaise, pour reprendre ses termes, et il ne voudrait pas qu'il tombe, car il y a déjà pas mal de cadavres au pied de l'abîme, dont justement celui de Bertrand Russell.
Moore, c'est un de ses interlocuteurs aussi, philosophe spécialiste de logique, hein, c'est pas Roger Moore qui est mort hier.
Oui, alors, à la différence de la correspondance avec Russell, les échanges avec Jimmy Moore ont démarré en 1913 et se sont poursuivis quasiment jusqu'à la mort de Wittgenstein. Sans doute doit-on y voir aussi un signe du fait que Wittgenstein cherchait tout autre chose dans les discussions avec Moore que l'exigence logique et logico-philosophique qui motivait les échanges avec Russell. Et d'ailleurs, au tout début des échanges avec Russell, Wittgenstein confie à Russell qu'il ne trouve pas du tout que les principia de Moore soient du même niveau ou aient la même importance, la même résonance que les travaux de Frege et de Russell. Mais peut-être précisément parce que les discussions philosophiques sont moins vives, moins intenses, un lien comme une base continue dans la vie de Wittgenstein va se former avec Moore, qui viendra le voir à Scholden en Norvège, auquel il dictera les notes qui ont formé ensuite le cœur du Tractatus. Et jusqu'à la fin de la vie de Moore, alors que la femme de Moore était relativement opposée à ce que Wittgenstein épuise son mari, ils vont poursuivre leurs discussions, mais parleront davantage justement d'éthique et de musique que de logique.
Alors on va entendre un texte qui est tiré des remarques mêlées, et non pas de la correspondance de Wittgenstein, qui est un texte qui, en plus d'être très beau et très imagé, possède cette grande qualité de nous permettre de comprendre non seulement le problème, peut-être un des problèmes les plus importants de Wittgenstein, parce qu'on parle des relations problématiques, mais ces relations sont problématiques aussi parce que l'identité l'est. Comment définir l'identité? Est-ce qu'il y a un sens à parler de vie intérieure? Et surtout, l'intérêt même d'une mise en scène de soi dans les correspondances. Ici, Wittgenstein prend l'exemple d'un théâtre. On imaginerait qu'un rideau se lève et qu'on voit un homme sur scène. Est-ce que ça aurait de l'intérêt pour celui qui lit? Eh bien, c'est exactement la position du lecteur qui va lire la correspondance de Wittgenstein. Quel intérêt a pour lui ces textes que l'on découvre et qui ne sont pas adressés au lecteur, mais à un autre interlocuteur? Écoutez ce texte interprété par le comédien Yvan Morane.
Imaginons un théâtre. Le rideau se lèverait et nous verrions un homme, seul dans sa chambre, allant et venant, allumant une cigarette, s'asseyant, etc. De telle sorte que nous verrions soudainement un homme du dehors, comme nous ne pouvons jamais nous voir nous-mêmes. C'est à peu près comme si nous voyions de nos propres yeux un chapitre d'une biographie. Cela devrait être à la fois effrayant et magnifique. Plus magnifique que tout ce qu'un poète peut faire jouer ou faire dire sur la scène, c'est la vie même que nous verrions. Engelmann me disait, un jour qu'il fouillait dans un tiroir plein de ses manuscrits, que ceci lui semblait si merveilleux qu'il pensait qu'il mériterait d'être offert au public. Mais, disait-il, il suffit que je pense à en publier des extraits pour que la chose perde tout attrait et toute valeur et devienne impossible. Nous avons ici, lui répondis-je, un cas semblable à celui-ci. Il ne saurait y avoir rien de plus merveilleux que de voir un homme dans l'une quelconque de ses activités quotidiennes les plus simples, lorsqu'il croit ne pas être observé. Soit, mais nous ne voyons pas dans cette perspective. Ainsi, lorsqu'Engelmann regarde ses écrits et les trouve merveilleux, alors il regarde sa vie comme une œuvre d'art due à Dieu, et en tant que telle, du reste, elle est en effet digne d'être contemplée, comme toute vie, comme tout et n'importe quoi. Mais c'est l'artiste seul qui peut nous représenter le détail singulier, de telle sorte qu'il nous apparaisse comme une œuvre d'art. Sans l'art, l'objet n'est qu'un morceau de nature comme n'importe quel autre. Et le fait que nous puissions le relever par notre propre exaltation n'autorise personne à nous en imposer le spectacle. Mais il me semble cependant qu'outre le travail de l'artiste, il existe encore une façon de saisir le monde de toute éternité. C'est, à ce que je crois, la pensée qui, pour ainsi dire, s'élève dans son vol au-dessus du monde et qui le laisse tel qu'il est, le considérant d'en haut, en vol.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, le deuxième intermezzo de Brahms, interprété par Gould, Brahms que Wittgenstein aimait beaucoup à écouter. Et Wittgenstein, dont nous parlons aujourd'hui de sa correspondance philosophique, hein, publiée aux éditions Gallimard, en compagnie de la philosophe Élise Marou. On vient d'entendre un texte magnifique, c'est vraiment un très beau texte, hein, Élise Marou, qu'on vient d'entendre tirer des remarques mêlées de Wittgenstein, qui pose en fait une question assez simple: qu'est-ce qui est le plus intéressant pour celui qui regarde, un homme qui est sur scène? Donc, un rideau se lève, on voit un homme sur scène, ou un homme que l'on surprend dans sa vie? Parce que finalement, ce qu'il y a d'intéressant dans cette correspondance, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y a une mise en scène qui vient rendre intéressant la vie de Wittgenstein lui-même, ou c'est au contraire parce qu'on a l'impression d'entrer dans son intimité, donc du coup d'apprendre des choses qu'il ne voulait pas nous montrer. C'est une question qui, pour le coup, là, est hautement philosophique.
Oui, alors je trouve cette remarque de 1930 quasiment inépuisable, puisqu'elle repose tout entière sur une analogie qui est rarement éclairée pour elle-même. L'analogie est la suivante, c'est que Wittgenstein part d'un constat d'Engelmann, Paul Engelmann, l'élève de Lohse, dont on a déjà parlé. Engelmann qui dit que quand il contemple ses manuscrits dans son tiroir, ils sont merveilleux, extraordinaires, et dès qu'il pense à les publier, ils perdent toute cette vie, tout ce miracle qui les anime, ipso facto, à l'idée même de publication. Alors ça me paraît très intéressant parce que c'est pour ça que Wittgenstein mobilise la dimension scénique du théâtre, en disant au fond Engelmann se trompe, c'est l'inverse. C'est au contraire la manière dont Engelmann se saisit avec passion d'une perspective qui est la sienne, d'une série ou d'une constellation de détails qui donnent sa valeur à ses écrits, à la vie même, c'est-à-dire en la stylisant. Il y a une remarque extrêmement importante qui date exactement d'ailleurs de la même année, du 1930, dans laquelle Wittgenstein reprend donc le clin d'œil à Spinoza en disant « le style, c'est la nécessité universelle vue sub specie aeterni ». Donc la stylisation de ce morceau de nature, c'est à la fois à l'artiste et à celui qui pense. Je pense que c'est de nouveau le philosophe dans l'opposition que Wittgenstein exposait à Russell entre un résultat scientifique et une pensée proprement philosophique. Donc ce que produit le travail sur soi-même lorsqu'il est philosophique et aussi bien architectural, puisque l'échange entre les deux hommes se joue entre philosophie, littérature et architecture, est de l'ordre d'une stylisation, d'une perspective qui, de manière extrêmement intéressante, une partialité donc, coïncide avec une forme d'impersonnalisation de l'existence qui est présentée. C'est le point le plus intéressant, peut-être le plus difficile à saisir de cette remarque, c'est-à-dire que Wittgenstein nous dit « cet homme, nous le verrions du dehors, comme jamais nous ne pouvons nous voir nous-mêmes ». Donc il y a une dimension, évidemment, d'extérieur, de publicité de la scène. Et pourtant, cette dimension de publicité, elle n'est valable, elle n'a une valeur qu'en tant qu'elle est précisément formulée, écrite, depuis la perspective du sujet. Pensant, du sujet écrivant, du sujet construisant.
C'est-à-dire que non seulement la mise en scène de la pensée n'enlève rien à son authenticité, mais même en plus elle permet de dire quelque chose que le simple regard sur l'existence ne permet pas. C'est l'importance du geste d'écriture lui-même qui compte ici.
Oui, c'est pour ça que je revenais sur cette définition du style,
ouais,
comme nécessité universelle vue sub specie aeterni. En fait, l'idéal régulateur de l'œuvre, et dès lors que l'œuvre est philosophique pour Wittgenstein, elle a cette dimension d'exploit d'écriture, donc elle est littéraire. Donc cette stylisation via l'œuvre, l'idéal régulateur de l'œuvre, c'est de voir ce morceau de vie qui est tout autant un réseau de concepts enracinés dans une vie, justement, ce morceau de vie comme Dieu le verrait, c'est-à-dire sub specie aeterni.
Et il le dit à la fin du texte, hein, il me semble cependant qu'outre le travail de l'artiste, de celui qui écrit, il existe encore une façon de saisir le monde de toute éternité, c'est la pensée qui, pour ainsi dire, s'élève dans son vol au-dessus du monde et qui le laisse tel qu'il est, le considérant d'en haut, en vol. Donc à la fois, il se met à la place de Dieu, mais surtout ce qui est assez bouleversant ici, c'est de la pensée qui s'élève et qui laisse le monde tel qu'il est. Il n'y a aucune volonté de transformer ce monde-là, mais de parvenir à le nommer en prenant cette bonne distance qui nous permet de mettre les mots là-dessus.
Tout à fait. Alors, elle laisse le monde, mais je parlais d'une dimension d'impersonnalisation parce qu'elle rend le monde à lui-même. C'est-à-dire que voir cet homme du dehors, c'est voir la vie elle-même. Et c'est comprendre ce par quoi le monde fait monde.
Donc sans jugement, sans valeur, là, justement, pour reprendre des...
Au contraire, avec perspective, doit pas s'entendre dans un sens perspectiviste ou subjectiviste, mais avec l'idée précisément que on va tendre à la restitution de l'essence même de ce chapitre d'une biographie ou de ce concept quand il s'agit de définir l'attente, la surprise, la nouveauté, ce que c'est que savoir, etc.
Donc on peut lire les correspondances comme ça, c'est-à-dire en se mettant à la place de celui qui regarde de l'extérieur un homme qui se montre peut-être même malgré lui.
Alors, pour la correspondance, c'est sans doute plus compliqué. Il faut se souvenir que Wittgenstein noircissait des carnets et que dans ces carnets étaient entremêlés des remarques codées intimes, les plus intimes, des récits de rêves, des remarques sexuelles, amoureuses, son travail philosophique et des remarques plus générales qui, justement, ont été extraites par von Wright pour nous fournir ce très très beau volume que sont les remarques mêlées. Donc il y avait déjà une dimension dans les carnets de Wittgenstein, qui ne sont pas un journal intime, il y avait déjà une dimension extrêmement intéressante d'entrelacement de l'intime en tant qu'il est l'expression d'une volonté de perfectionnement moral, comme le journal, et d'une dimension de publicité, puisque Wittgenstein procédait ensuite à un travail de sélection sur le corps, le matériau de ses remarques, pour justement les extraire des carnets et en faire l'œuvre publiée. Mmh. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans l'analogie entre la scène et Engelmann qui regarde ses tiroirs remplis de manuscrits, c'est que finalement, Wittgenstein, en fait, revient sur le lien entre intimité, publicité et publication. Donc tout se passe comme si dans la correspondance, on avait effectivement une forme d'intimité qui n'est pas celle d'un journal intime, parce que jamais Wittgenstein ne va confier quelques détails que ce soit de sa vie amoureuse, il ne parle que du travail de sa pensée, que de la vie de ses pensées à ses interlocuteurs. Donc dans cette mesure, il y a...
Ce qui est intime en même temps.
Ce qui est intime, bien sûr, qui est intime, mais pas, me semble-t-il, au sens précisément des remarques codées et des remarques qu'il prenait soin dans les carnets, précisément, de séparer d'un trait ou de distinguer de son travail philosophique à proprement parler. Alors, pour éclaircir ce point, il faudrait peut-être distinguer l'éthique qui résulte du travail philosophique lui-même, qui se situe en amont et en aval du travail philosophique, et ce que Wittgenstein considérait comme étant de l'ordre d'une confession, d'un travail sur soi qui ne concerne que lui en première personne, et dont il ne fait absolument pas part à ses interlocuteurs dans la correspondance. Donc il y a cette dimension d'intimité-là, elle reste tue. Donc c'est peut-être précisément ce qui distingue la correspondance d'un journal. En revanche, alors il n'y a pas de ce fait dans la correspondance, il n'y a pas de secret, il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit, mais il s'agit justement de communiquer aux amis les humeurs, les baromètres de l'âme, pour reprendre l'expression de Pierre Paché, au sens du lien de la météorologie des états qui se forment en accord et en suivant les états, la santé et la grande santé du corps, et justement de montrer comment Wittgenstein alterne entre des moments de stérilité, de désespoir dans l'écriture philosophique, et des moments au contraire de régénération, de fermentation, de bouillonnement, qui sont précisément alimentés par les réponses de ces interlocuteurs.
Vous citiez Pierre Paché hein, pour justement cette différence entre le journal intime et la correspondance. Dans quelle mesure est-ce que l'un serait davantage un baromètre de l'âme que l'autre? Écoutez-le, c'était en 1999 pour l'émission À Voix Nue sur France Culture.
Ce qui m'a intéressé dans l'invention du journal intime, c'est qu'il s'agit moins d'introspection que de faire face, pour celui qui tient son journal, de faire face à sa propre inconsistance, de faire face à l'ennui, de faire face au vide de l'existence. Le journal intime naît à partir du moment où une âme se considère comme privée de la grâce. C'est ces moments d'aridité, ces moments de manque, c'est là qu'il est important de s'observer soi-même. Mais pas s'observer pour savoir ce qu'on pense, mais pour faire face à cette aridité, à ce manque lui-même. Et je crois que le journal intime, c'est le journal, il naît des moments où on n'est pas à la hauteur de soi-même, en quelque sorte. Lorsqu'on mène une vie pleine, lorsqu'on pense, ben on n'a pas grand-chose à dire. Le journal de Kafka n'est nourri que dans les moments où il n'arrive pas à écrire.
Cher Engelmann, j'ai reçu votre lettre il y a quelques jours. Merci beaucoup. Je crois comprendre entièrement votre état. Je me trouve en ce moment, et ce depuis mon retour du camp de prisonniers, dans un état analogue. Je crois que les choses se passent ainsi. Nous n'allons pas au but par la voie directe. Nous n'en avons pas, ou en tout cas je n'en ai pas, la force. Par contre, nous avançons sur toutes sortes de chemins de traverse, et les choses sont pour nous acceptable tant que nous pouvons aller de l'avant. Mais quand un chemin de ce genre s'arrête, nous sommes plantés là, et c'est alors seulement que nous réalisons que nous ne nous trouvons pas du tout là où nous devrions être. C'est en tout cas ainsi que je vois les choses. Mais j'ai grand besoin de vous voir et de vous parler. Vous verrez à quel point j'ai touché le fond, si je vous dis qu'à plusieurs reprises, j'ai songé à m'ôter la vie. Non pas parce que ma malignité me mettait au désespoir, mais pour des motifs purement externes. Il est peu vraisemblable que parler avec vous m'aide d'une certaine façon, mais ce n'est pas impossible. Venez vite. Pierre Pachel disait dans l'extrait qu'on a entendu, Élise Marou, que finalement, celui qui écrit un journal, c'est celui qui n'arrive pas à être à la hauteur de lui-même. Dans l'extrait de la lettre de Wittgenstein à Engelmann du 16 novembre 1919 que je viens de lire, Wittgenstein semble s'adresser à lui-même ce reproche de manière extrêmement intense et dramatique, puisqu'il a même songé à sauter la vie. Et pourtant, le choix d'écrire une lettre et non pas de coucher ses pensées sur un journal intime est entendu comme cet appel au secours. Je ne suis pas à la hauteur de moi-même, mais venez, vous pouvez m'aider. Quelqu'un peut m'aider, puisque moi, je n'y arrive pas. On peut lire ici la correspondance dans ce sens.
Oui, alors c'est un point qui est extrêmement intéressant, et ce depuis les premières lettres adressées à Russell. Et c'est là qu'on voit le mieux, sans doute, la réversibilité entre le travail philosophique et le travail éthique, le travail sur soi-même. C'est que pour Wittgenstein, la discussion, que ce soit avec Russell, avec Engelmann, avec Moore, est de l'ordre d'une urgence et d'une nécessité vitale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit en aucun cas de pouvoir différer le prochain échange, la prochaine discussion, précisément parce qu'il s'agit de vie ou de mort. Sinon, la philosophie est trop facile, comme il le dit. Et il le dit d'ailleurs fréquemment, ça scande la correspondance, que si la philosophie n'était que ça, elle ne vaudrait pas une heure de peine. Et donc, ça signifie, me semble-t-il, pour être à la hauteur de soi-même, c'est aussi un leitmotiv des remarques mêlées de la correspondance pour Wittgenstein, c'est qu'il s'agit toujours, dans le travail de la pensée, dans le, ce qu'il appelle sur le front la vie de l'esprit, puisse l'esprit ne pas m'abandonner, d'arriver à s'exaucer, se hausser à ce niveau-là, ce niveau d'exigence qu'il appelle, c'est un autre motif récurrent, la décence.
Oui, il parle d'une vie décente. Ce qui est souhaitable, c'est mener une vie décente.
Et il dira toujours, de la première lettre à la fin, donc c'est Anständigkeit en allemand, la décence, c'est à la fois un idéal de droiture, une exigence de droiture, d'honnêteté intellectuelle et, je pense, de tension à la perfection dans l'écriture et dans le précisément le travail de la pensée et qui, par définition, n'est jamais atteint. Donc c'est toujours, il est toujours en deçà de cet idéal. Il est toujours en deçà de l'œuvre qu'il pensait pouvoir écrire. Et ce thème se module et se remodule, connaît plusieurs variations au fur et à mesure qu'il ait 20 ans ou qu'il apprenne qu'il est atteint d'un cancer. Il y aura toujours ce leitmotiv d'être à la hauteur de soi-même. Et de ce point de vue, il y a une différence fondamentale, je pense, entre la manière dont Paché, dans les baromètres de l'âme, définit le journal intime et la correspondance de Wittgenstein. C'est que Paché reprend cette définition de Charles Dubos à propos de la lecture du journal de jeunesse de Tolstoï. Il dit, Dubos, à propos de Tolstoï, « Cette lecture m'a intensément intéressée, je dirais volontiers, à cause de sa monotonie même. » Dans cette mesure, le journal, par définition, son essence même, ce serait l'instrument d'un perfectionnement moral et rien d'autre. Donc il y a un rapport, me semble-t-il, à la temporalité, à la temporalisation, qui n'est pas du même ordre dans la correspondance, puisqu'il est essentiel à chacun des journaux intimes que Paché analyse et commente merveilleusement, on examine du changement dans cette continuité, au sein de cette monotonie. Et de ce point de vue-là, la correspondance de Wittgenstein est très différente et très différente aussi du journal de Kafka qu'il cite dans le très bel extrait que vous avez, qu'on a entendu. La différence, c'est que Wittgenstein revient sur ces moments de stérilité qu'il accule au désespoir et souvent à la tentation du suicide. Mais il y a un contrepoids qui s'opère, un mouvement de balance, si vous voulez, avec les états d'effervescence, de bouillonnement, de régénération, qui sont à la fois appelés et nourris, appelés et alimentés par le retour des amis.
Mais le témoignage de Pierre Paché nous permet d'aborder un autre point qui traverse toutes les correspondances quand on les lit. Une question qui se pose, c'est celle de savoir finalement... On distingue le journal intime de la correspondance, mais y a-t-il jamais quelque chose comme une vie privée, une vie intérieure ? Wittgenstein, qui a autant réfléchi sur l'identité, qui a cet idéal de pureté, de vie décente dont vous parliez, croit-il même en l'existence de quelque chose comme une vie intérieure, d'une vie intime qui ne pourrait pas être traduite par mots dans une correspondance ?
Alors, bien entendu, il y a un passage des recherches philosophiques qui le montre très bien, il ne s'agit pas du tout de nier quelque vie intérieure ou quelque intériorité que ce soit, et encore moins cette dimension intime, puisqu'elle est à l'œuvre de manière philosophique, dans chacune des remarques mêlées, au fur et à mesure des lettres, quel que soit l'interlocuteur auquel Wittgenstein s'adresse. En revanche, ce qu'il faut réussir à désamorcer, c'est les images simplificatrices et déformantes les philosophes ont plaqué sur cette expérience et qu'ils la dénaturent. Donc, la réification, notamment, de cette vie intérieure, la transformation d'état intérieur ou d'une douleur en un état qui viserait ou qui aurait un objet, l'idée d'une ineffabilité, précisément, de cette relation. Alors que Wittgenstein nous montre, au fur et à mesure... des recherches et également dans la correspondance le contraire, c'est-à-dire que c'est précisément parce que le grain de cette expérience est extrêmement fin, extrêmement délicat, que nous avons besoin de toute la sophistication de nos concepts et d'un exploit d'écriture pour arriver à la rendre à elle-même.
Et les concepts philosophiques peuvent saisir cette délicatesse de l'existence intime et de la vie ordinaire.
Toute la philosophie de la psychologie de Wittgenstein, donc toutes les dernières remarques qui constituent vraiment l'horizon et le point d'aboutissement de sa pensée sont cette grammaire de la vie intérieure, de nos verbes psychologiques.
À la lecture de cette correspondance ressort aussi un portrait de Wittgenstein qui est à la fois très... très en colère, très irascible, très naïf aussi, il a un côté très enfantin et en même temps très lucide. Ça pourrait être un personnage de Dostoïevski, en fait, Wittgenstein, quand on le lit. C'est d'ailleurs, il y a fait référence, je crois, dans la correspondance, on le compare à Alyosha ou au prince Mishkin, l'idiot de Dostoïevski. Il y a quelque chose d'absolument brut, d'absolument lucide et naïf en même temps, ce qui est très déconcertant pour le lecteur et pour quiconque rencontre un homme de cette espèce.
Oui, alors il y a une étrange intrication de la candeur et de la violence de ses jugements de valeur, tout particulièrement au début de la correspondance. On l'a dit déjà, il était extrêmement déçu par les cours de J.E. Moore. Il disait qu'on ne clarifiait pas une obscurité à force de répétition. Et précisément après avoir été déçu par l'enseignement, il va revenir à Moore, lui demander et lui offrir son amitié, en disant de manière candide, au fond j'ai compris ce qui cloche dans votre enseignement, c'est que vous avez besoin d'un interlocuteur qui est la flamme.
C'est ça, l'importance de la flamme. J'ai encore la flamme, dit-il, alors que Russell l'a perdue depuis bien longtemps.
Oui, voilà, il vous manque un interlocuteur qui soit véritablement intéressé par vos problèmes, donc par les problèmes philosophiques. Et Wittgenstein estime qu'à Cambridge, dans l'entourage de Moore, personne justement n'a l'intensité propre à raviver le désir philosophique de Moore. Il se présente, encore une fois, avec beaucoup de candeur, comme n'étant pas spécialement compétent dans les matières qui intéressent Moore, mais comme ayant cette intensité et cette flamme qui permettra à Moore de reprendre son travail. Il n'est pas encore éteint, il n'est pas amorti, comme la plupart des étudiants et des collègues, des professeurs de philosophie de Cambridge.
Et on retrouve cette intensité, même cette lutte, dans quasiment toute sa correspondance, jusqu'à là une lettre, par exemple, qu'il écrit à Maurice Schlick, donc le philosophe allemand qui était considéré comme le maître du cercle de Vienne, en octobre 1931, il lui fait part de son travail, à quel point il a pu avancer dans son travail. En même temps, il lui fait part aussi de cette peur permanente de que la mort le surprenne et lui empêche de terminer. Vous parlez de l'urgence vitale du travail philosophique, cette urgence, elle est vécue comme telle par Wittgenstein dans son corps, c'est pas simplement là, pour le coup, une idée philosophique. Élise Marron.
Oui, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, une affaire de nécessité vitale. Et cette nécessité vitale, y compris dans cette lettre à Schlick, elle est profondément liée à l'angoisse de ne pas arriver à publier son œuvre, qui s'exprime aussi, on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore, dans les craintes récurrentes de plagiat. Puisque pendant très longtemps, les matériaux sur lesquels Wittgenstein travaillait ont été exposés par lui et d'autres de manière orale, notamment justement dans le cercle de Vienne, entre les membres du cercle de Vienne. Et il y a cette angoisse exprimée.